Cook, toujours dans la partie Israël outre, a vu la différence entre. On a dit qu'il y avait deux. Regarde les événements du monde par simplement des actions qui s'enchaînent par des causes géopolitiques. Regarde la raison morale de ce qui se passe dans le monde. Ok ? On avait donné l'exemple de, par exemple, Khurban HaBayit dans Mamlechet Shlomo. Comment ça se fait que d'un côté, Mamlechet Shlomo, elle est très très puissante ? Comment ils t'expliquent ça à l'université ? Ils te disent parce que il n'y avait pas l'Égypte, l'Égypte était en train de mourir, que d'un autre côté, il n'y avait pas encore l'avènement de Babylone et machin. Donc, tout d'un coup, la Mamlechet Shlomo, elle pouvait servir de pont intercontinental et donc il y avait énormément de puissance à ce royaume, machin. Alors que, d'un point de vue Torah, c'est parce qu'on est en train de construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire ? Donc, est-ce que tu regardes le monde avec un œil sibati ou avec un œil moussari ? Nous sommes arrivés donc. À mon avis, aval, d'accord ? C'est. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes en partant du bas. Tu vois ?
Aval, Be'et, Asher.
Voilà. C'est-à-dire ? Donc. Aval, ve'et asher anu olim lemala yoter eliona shel cherut nisgava. Lorsqu'on décide de s'élever à une dimension de liberté plus grande, au niveau donc de la neshama, az anachnu mishtacherim mikol ota mu'aka asibatit. On n'est plus tenu uniquement d'analyser le monde par les événements historiques, géopolitiques et ainsi de suite. D'accord ? Donc on peut s'élever à quelque chose de plus haut. אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית וכל הבניין החוקי מצטיר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה שהעידוק והאימוץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ ועוד יותר מחותר מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. Quand on arrive à s'élever au-delà simplement des causes-conséquences techniques du monde et qu'on s'élève à la dimension moussarite, alors on arrive à une compréhension qui n'est pas moins grande, bien au contraire, puisqu'elle va jusqu'à l'origine des choses. Parce qu'en vérité, quand tu regardes uniquement la sibatiyout, voilà, pourquoi il y a la situation ? Parce que aujourd'hui, je donne un exemple actuel pour nous les francophones qui connaissons ça bien. Ce que fait par exemple M. Éric Zemmour, c'est la Havana à Sibatit. C'est-à-dire, pourquoi la situation de la France, elle est comme ça ? Ben voilà, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a eu ça il y a 30 ans, parce qu'il y a eu ça il y a 40 ans, parce qu'il y a eu ça, ça a emmené un événement, une boule de neige, machin, nan, nan. Sauf que toi, tu dis, mais deux secondes, ça c'est intéressant, mais c'est quoi la valeur morale qui se cache derrière tout ça ? Quand on te parle de guerre de civilisation et tout ça actuellement, on ne fait que de l'analyse. La civilisation judéo-chrétienne, elle propose ça. La civilisation musulmane, elle propose ça. On ne veut pas que ça remplace. Oui, d'accord, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que propose la civilisation occidentale ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que propose l'islam au niveau moral, au niveau de la relation entre l'homme et Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, ce n'est pas fait. Donc, on dit leur fou.
Quand il en parle, c'est un petit peu quand même.
Ah bon ?
Bien
sûr, on sait ce que l'islam veut, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, pas seulement ce que l'islam elle veut, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, on va pas rentrer dans le débat.
La chrétienté pendant 2000 ans, on savait très bien ce qu'elle faisait.
Mais c'est pas ça que j'ai dit, on sait ce qu'elle fait, mais est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand la chrétienté, elle te dit, je te donne un exemple, quand la chrétienté, elle te dit que l'idéal, c'est de ne pas se marier. C'est un fait, puisque l'idéal de la chrétienté catholique, c'est que les prêtres ne se marient pas. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau moussari, au niveau moral ? Ça veut dire que tu es une religion qui est basée non pas sur la vie, mais sur la mort.
Donc la vie bien ce que ça va amener.
Et donc, ça va amener énormément de déviance. Mais les déviances, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends?
Et les gens, ces prêtres là, sont mariés avec le peuple et avec Hachem. Il y a une sorte d'intermédiaire.
Donc, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir se marier avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ma relation, elle est tournée vers le monde? Ou est-ce qu'elle est tournée uniquement vers les cieux? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que pour moi, donc, ça représente que l'idéal, c'est de dévoiler Dieu ici? Ou que l'idéal, c'est de rejoindre Dieu là-haut? Ça, c'est une analyse qui est complètement différente. Ok, donc c'est une approche complètement différente. Ok. ועוד יותר מחותב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו באין ארוך. Et c'est beaucoup plus grand d'appréhender le monde de cette manière-là que de la manière simplement
cause
à effet. אז אנו עומדים בעולם של חופש. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרומם הוא את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושכו אליו. Quand tu dévoiles la dimension moussarite, le pourquoi des choses, alors le comment des choses, tout d'un coup, prend une valeur beaucoup plus vraie. Je viens de donner un autre exemple et on sort de Eric Zemmour.
Moussar, c'est moral.
Moussar, c'est moral, oui, exactement. Viens, on sort deux secondes de M. Zemmour et on rentre dans quelque chose de, qu'il a un petit peu précédé. À Big Bang. Hein, le Big Bang. J'ai vu que tu parlais de M. Bogdanov, qui a rejoint son créateur. Quoi, les deux?
Les deux.
Mais mec,
j'étais surpris.
Eh
ben.
À quoi, c'est le Covid? Ah ouais?
Covid, les deux.
Incroyable.
Si je vous
repasse, on bien les médias, c'est bien, faut bien chercher peut-être la cause derrière, pour voir.
Bon, je ne savais pas, eh bien écoutez, voilà, les Iloui Nishmatam, hein, qu'est-ce que tu te dis? Non, mais ils ont beaucoup parlé, eux, d'Afka, ils essayaient de chercher la notion moussarite derrière tout ça, à leur dimension, à leur niveau. Mais quand tu parles, par exemple, de Big Bang, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, la planète Terre, comment est-ce qu'elle a été créée? Ben, il y a un amas de poussière qui se sont mis ensemble, qui se sont agglomérés, machin, parce que lorsque le Soleil s'est créé, ça a fait une réaction. Mais en fait, le Soleil s'est créé parce qu'il y a eu une connexion de plusieurs étoiles et la galaxie. Et on remonte, et on remonte, et on remonte. Et on remonte jusqu'au Big Bang. Vous vous rappelez de ces deux ingénieurs en télécommunication? Je ne me rappelle plus de leur nom. Il y a deux mecs. Ingénieurs en télécom qui ont reçu le prix Nobel parce qu'ils ont trouvé bêtaout ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ou alors en français le rayonnement fossile, ou alors en français, tu sais, il y a une époque, vous connaissez ça, je vous parle d'un truc que les jeunes ne peuvent pas connaître, mais il y a une époque où dans les maisons il n'y avait pas un grand rectangle collé au mur qui projetait des images, il y avait une boîte qui projetait des images, une petite boîte qui projetait des images. Hein, vous connaissez ça? Ça s'appelait un téléviseur.
Hein, c'est
pas l'écran plasma, non, ça s'appelait un téléviseur. Et des fois, quand ton antenne de ton téléviseur ne marchait pas très bien, il y avait ce qu'on appelle la neige. Hein, le brouillard, la neige. Et bien, ces deux ingénieurs qui sont venus réparer ça dans une parabole, machin, nanana, en fait, ils se sont rendus compte que cette neige-là, c'était un vestige du Big Bang.
Quoi ?
Un vestige du Big Bang. Ils ont reçu le prix Nobel de physique pour ça. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Maintenant, oui ?
Le 25 décembre,
oui,
a été envoyé une fusée Ariane 5,
oui,
avec un télescope qui s'appelle James Webb. Mm-hmm. Et son but de ce télescope, il est parti vers le Soleil, et il doit, le but c'est ça, c'est d'aller savoir exactement ce qu'il y avait avant le Big Bang.
Alors ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas si on va y arriver. Bah, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, on t'explique, au niveau scientifique, on arrive à t'expliquer, de manière plus ou moins claire, depuis, pas le Big Bang, parce qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'au Big Bang, on arrive à remonter pour l'instant jusqu'à ce qui s'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang. Bon, c'est très très peu, mais ce n'est pas le Big Bang. En tout cas, on arrive à dire, maintenant, Bessédère, nous dit le Rav Kook, dans le livre L'Inevouché Ador, chapitre 4, que le Big Bang, c'est génial. Alors on commence à parler de la théorie du Big Bang à ce moment-là. Il dit, mais c'est génial le Big Bang. Parce que qu'est-ce qu'il dit, en vrai? Mais ils ne savent pas qu'ils disent ça. Mais ils disent quoi? Ils disent qu'à l'origine, il y a un truc, et c'est devenu plein de choses. Nous, le Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est pas chouette. C'est-à-dire qu'au niveau si bâti, il y a eu un événement, cause à effet, machin. Mais au niveau moral, ça veut dire quoi? De cause à effet, elle prend une dimension beaucoup plus importante. Ok? C'est ça que nous dit le Rav Kook ici. Bessader. משפיע עליו מאורו ונמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה של החוקים המוסריים שהם הרבה עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. Une fois que tu as relié la cause à effet avec la morale, eh ben alors tu donnes une dimension beaucoup plus importante à tout ce qui est cause effet. D'accord? Agave, on parle du Big Bang, ça marche aussi au niveau beaucoup plus simple avec nos enfants. Hein. Il pleure. Lama. Est-ce que c'est simplement parce que son frère l'a tapé? Ou est-ce que Behemet, lama? Ça dépend. Eh ben, la façon dont tu regardes la chose, ça va être complètement différent. Parce que son frère l'a tapé, c'est pas ça qui le fait pleurer. En vrai. En vrai, tu sais bien que c'est pas ça qui le fait pleurer. Parce que, à moins que son frère il ait une force fantastique et qu'il lui a fait vraiment très 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 mal, mais la majorité des pleurs entre frères et sœurs, c'est pas parce qu'il a eu mal au niveau physique. Ah, ça peut être la vexerie, ça peut être le sentiment d'injustice, ça peut être le fait que papa, il a pris fait et cause pour lui, alors qu'en fait, c'est lui qui a commencé. Machin. L'âme. Ok? Et donc, à ce moment-là, les pleurs de l'enfant, ils prennent une dimension complètement différente. Ok? Donc, à Sibatiout, elle doit servir la Moussariout, et pas l'inverse. D'accord? Ok. וכשאנו מעמיקים בדבר, הרינו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתם המעולה בעולם המוסרי המלא זיו. Comme on a dit, on arrive après à réunir toutes les choses qui sont dans ce monde de relations de cause à effet, pour donner une animal là. וכשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, lorsqu'on regarde maintenant le lien entre la Torah et le peuple juif, ברית כרותה לארץ ולעם, כשדבקים בהשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חיל, וכשזונים אחרי אלוהי נכר הארץ, הרי הם מתדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ בא וצרות וכליונות הולכות ובאות. Donc c'est ce qu'on avait donné comme exemple la semaine dernière. Et là, le Rav Kook le dit clairement. Il dit, au niveau de morale, on te dit, il y a une alliance qui est faite entre Dieu et nous. Quand on fait bien, on réussit au niveau du peuple juif et en terre d'Israël. Quand on se comporte de manière pourrie, ben on ne réussit pas et on part en exil. Ça, c'est au niveau moral. Au niveau de l'historien, lui va essayer de t'expliquer par des trucs, machin, techniques et géopolitiques. C'est pas faux. C'est juste que c'est pas la véritable raison profonde. Ok?
C'est superficiel.
Voilà, c'est la partie immergée de l'iceberg. Émergée.
Émergée.
Émergée. Émergée. Toujours là, finalement. Hein, c'est ça. On peut pas s'en passer. C'est ça. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. זה לא זה, זה פעם על זה. Quand on regarde uniquement les résolutions de tous les problèmes dans le Sibati, une cause à effet, on a toujours une épine qui ne marche pas. Elle s'appelle Amisraël. Ça ne marche pas. Ça ne rentre pas dans les catégories normales d'analyse sibatite. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des juifs aujourd'hui de Khoutzlaratz. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui aurait dû leur arriver aux juifs? C'est-à-dire qu'on aurait dû quoi? Non! Pas forcément exterminé. Bah, on aurait dû s'assimiler. Non mais ça, oui mais là tu regardes, t'as raison, non pas plus du double, on parle plus ou moins de la même du même nombre. C'est à dire qu'aujourd'hui on a à peu près 14 millions de juifs dans le monde. Ça tu peux pas savoir, il y en a peut-être plus, mais c'est pas ça que je te dis. Parce que l'analyse elle est comme ça, elle est avant la Shoah il y avait 18 millions de juifs, après la Shoah il y en a 12 millions, ok, il y a 6 millions qui sont morts. Aujourd'hui on est à 14 millions, alors que au niveau de la natalité, au niveau de la démographie, normalement, en 70 ans, on aurait dû au moins réatteindre les 18 millions, et au vu de la natalité du peuple juif, on aurait dû arriver à 21 millions. Et on est 14 millions. Où sont passés les 6 millions? Eh bien, là, tu peux rentrer le vecteur assimilationniste. Mais moi, je ne prends pas seulement le prisme des 70 dernières années. Je dis sur 2000 ans. 2000 ans où un Israël il part en galoute dans tous les endroits du monde. Mais il ne doit plus exister, c'est pas possible. Il doit être complètement assimilé par les différentes nations. Ben évidemment. Mais combien il reste aujourd'hui de druides? Tu connais, c'est qui le dernier druide que tu connais? Il n'y a plus de druides. Hein, Vanoramix, bien sûr. C'est-à-dire, les amis, la civilisation gauloise.
Tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on nous raconte quand cette cause
elle,
elle est faite, on ne va pas forcément voir Hachem derrière. C'est déjà ça, dans notre propre temps, on a du mal à comprendre.
Bah oh, bah oh.
Tout ce qu'on nous raconte, comme ce qu'il a dit avec les
Boganov,
c'est exactement ça. Il a fait cause,
il a fait
tout de suite. Ils sont morts parce que nous,
on va signer.
Et c'est ça,
là. Les lois Hachem. C'est Nachon, c'est Nachon, tu as raison. Que si on se limite à Sibatiout, il te dit, si tu te limites à la Sibatiout, il y a un truc qui ne marche pas. Ça s'appelle Amisraël. Amisraël, sibatitement parlant, il ne devrait plus exister. Et on est là.
Et la réponse peut être au niveau mathématique, finalement. Ça se rapproche avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 10% pour un lit, donc une partie des bénis Israël ne sont pas partis au Canaan. Donc on dit un cinquième est resté.
Non,
est parti.
Il est parti.
Un cinquième. Et ensuite, il y a une assimilation. Donc une partie de ce cinquième a disparu, etc., etc. Finalement, on arrive toujours à quelque chose d'infini.
Donc ça marche pas.
Ça marche pas.
Donc ça marche pas.
La réponse mathématique ne répond pas. Donc
ben oui, parce que Amisraël, il aurait dû être assimilé. C'est normal. Oui. Tous les autres peuples qui ont été envoyés en exil, ils n'étaient pas les seuls, hein, ben, n'existent plus aujourd'hui.
Il y a 50 ans de ça, j'écoutais un rabbe qui faisait justement ce sujet-là. Il dit l'assimilation, elle a été plus terrible que la Shoah. C'est-à-dire on a perdu beaucoup plus dans le peuple juif que la Shoah.
Mais là, vous concentrez uniquement sur les 70 dernières années. Je te dis, viens, on va plus loin encore. On va encore plus loin.
Il n'y a pas de territoire, rien du tout.
Nahon.
Si je ne raconte pas de bêtises, il me semble qu'on est exactement, quasiment le même nombre, 13, 14, 15 millions, qu'aujourd'hui, ça remonte à la sortie d'Égypte.
Plus ou moins. Plus ou moins, après le Midrash. Enfin, avant qu'on sorte d'Égypte. En Égypte.
Pardon?
En Égypte. Pas à la sortie. En Égypte.
Non, à la sortie.
Ouais. Non, à la sortie, tu ne peux pas arriver à 15 millions. Parce qu'à la sortie, si on est 600 000 hommes âgés de 20 à 50 ans...
On avait fait le calcul une fois.
On va le faire, c'est très rapide. On est 600 000 hommes âgés de 20 à 50 ans qui sortent d'Égypte. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah.
20 à 60.
C'est quoi? Non, c'est 50, mais il y a la Cheyé 60. L'homme chané, l'Okhachou. L'Okhachou. Donc tu rajoutes au moins autant de femmes. Ils sont mariés, les gens. Ils ont des familles. Donc, ça fait déjà 1,2 million. Ils ont... Attends, ils ont, allez, au moins un enfant, deux enfants. C'est-à-dire, donc tu vas arriver à 3 millions, allez, 3 millions de juifs qui sortent, et c'est un cinquième du peuple. Donc en Égypte, on était 15 millions à peu près. C'est-à-dire, ce qui est déjà en soi un problème parce que c'est des chiffres qui sont trop, trop grands pour la population de l'époque. Mais l'homme est chané.
C'est possible, puisque en 1000 ans, la population européenne. 40 millions.
Non, ça paraît l'homme. Mais... 15
millions de juifs.
Hein? 15
millions de juifs.
Ouais.
Et
en
Égypte, seulement. Mais est-ce qu'il y avait à ce moment-là 3 millions
d'autres communautés?
Est-ce qu'il y avait des juifs ailleurs? Il y en avait.
Écoute, pas...
etc.
Non, pas à ce moment-là, non.
Pas... Il n'y avait pas d'autres juifs ailleurs.
Pas qu'on sache, puisque bah, disons que là on parle des balbutiements du peuple juif. Yaakov arrive avec sa famille, il n'y a pas d'autres juifs.
Dans une prison.
Donc c'est un peu compliqué. Mais vous savez quoi, l'homme échané. Moi, c'est ok, on est arrivé, mais vous vous rendez compte que on aurait dû complètement disparaître, comme les autres. On n'aurait jamais dû rentrer à la maison. Ça n'existe pas un peuple qui revient sur sa terre après 2000 ans d'exil. Donc c'est pour ça que je te dis, si tu regardes uniquement Sibadi, t'as un problème. Ça l'air. Donc, Arenu Motzim, Shegua Israel, Achuzu, Beshalchelet, Organit, Razaka. Deotav, Maalache Chayav, Megamat Panav, Betoafat, Rucho, Aklalit, Aemet, Aeliona, Mitgalabo, Vealiado, Trunat, Arzo, Ubirkotea, Itam Tzud, Anneshamot, Ayechidiot, Amshachat, Birkotehem, Leshade, Chayehem, Achen, המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות הבונות את בניין הכללי ומבואיהם, בהירות הסקירות, סליחה, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים. וואלה, זה תוסע, הכל החוץ. On se rend compte que l'âme d'Israël, elle est très forte. Dans quoi? Mais Déotav. Comment est-ce que Déotav ont influencé le monde?
Ben, on est dans le code civil français.
Dans le code civil.
Dans la langue française, il y a plein de mots.
Ben, c'est ça. Ça, c'est Déotav chez l'âme d'Israël.
Au niveau de la moralité.
Est-ce que tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle le monothéisme?
Oui.
Les chrétiens, les musulmans, t'as entendu?
Sixième
livre. Zemedinou. Donc, on a influencé le monde, Bédéotenou. C'est Aleph. Ensuite, Maalache Chayav.
Les chrétiens, ils sont monothéistes, les catholiques.
Oui. Non, attends. Les chrétiens, ils se revendiquent, eux, monothéistes. Nous, on pense au niveau halachique qu'ils ne sont pas vraiment monothéistes. Mais ils sont vachement plus monothéistes que les idolâtres de l'époque, d'avant la chrétienté.
Mais pourquoi on ne dénonce pas ce faux monothéisme?
On dénonce.
Mais entre eux,
oui.
Ils se dénoncent.
Oui, mais on dénonce. Au niveau halakhique, je te rappelle que tu n'as pas le droit de rentrer dans une église. Bah, donc on dénonce. Pourquoi tu n'as pas le droit de rentrer dans une église? Parce que c'est à Vodazara. Et donc, Assour, une mosquée, tu as le droit.
Ouais.
C'est vrai? Quoi? Ah, le Rav Mordechai Eliyahu, il a donné la réponse. Parce qu'il y a plein de rabbins qui lui ont posé la question. Est-ce qu'on a le droit pour les cérémonies? Alors il a dit évidemment que pour les cérémonies religieuses, tu n'as pas le droit d'être là-bas. Mais, Mishum Darke Shalom, dans la mesure où, quand tu vis chez les Goïm, eux ils viennent à la synagogue pour les cérémonies des morts de la Shoah, machin, nan, nan. Quand ils t'invitent pour la cérémonie des morts de je ne sais pas quoi, et qu'ils ne font pas un tekes religieux, mais qu'ils font simplement une cérémonie du souvenir des morts. Mishum d'après Shalom, tu as le droit d'y aller.
Ouais.
En aménageant la.
Oui, tu t'arranges, quoi. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que. Mais Stam Kaha, Assour.
Tu peux aller visiter, par exemple, prendre des photos, c'est n'importe quoi.
C'est Assour.
Alors, ce qui est bleu,
je te dis quelque chose.
Oui,
je te raconte.
Mais je t'en prie.
En 1992, c'était le 500e anniversaire de l'Inquisition. Je me retrouve, j'étais invité avec d'autres médecins à Tolède. Et j'étais avec, entre autres, un ami, Amselem, qui est cardiologue et qui est le fils, à l'époque, le fils du grand rabbin de Monaco. Donc c'était un monsieur très religieux, qui avait toujours la
tête
sur la tête. Uriel. Bon, on se trouve à Tolède et on visite, évidemment, des églises. Alors, moi d'abord, je n'ai pas voulu rentrer parce que ma femme ne voulait pas rentrer, etc., etc. Et je vois, comment il s'appelle déjà ?
Uriel
Abselem qui rentre et qui joue avec tous les autres juifs quoi, du groupe. Et je lui dis, mais Uriel, toi, le fils du grand rabbin de Monaco, tu es très religieux, etc., comment tu rentres là-dedans ? Et il m'explique, c'est un petit très religieux, d'accord, et intelligent, etc. Il me dit, je ne suis pas rentré pour faire une prière, je suis rentré pour visiter un lieu.
Oui, mais je veux pas remettre en cause le truc. Moi, je suis pas. Enfin, je vais t'avouer que je suis pas d'accord avec ça.
Et
oui,
c'est Monaco.
Oui, c'est justement, quand j'ai fait ma formation de guide. Pouvoir expliquer aux gens. Et je me souviens avoir demandé à l'époque au Rav Cherki, et il m'a dit, il n'y a pas de débat possible, assour. Maintenant, tout ce qui est makom tfila, c'est assour. Machelo makom tfila, moutar. C'est-à-dire, par exemple, tu rentres dans un monastère et que tu es dans la cour et machin, c'est moutar. Mais l'endroit où ils font la prière, donc dans l'église, dans la chapelle, c'est assour. C'est assour. Aujourd'hui, ça a beau être mon métier, je ne rentre pas dans les églises, malasot.
D'où l'expression « chacun son église ».
Je ne connaissais pas cette expression, mais si tu veux. Bekitsour, donc on a influencé « Bedeotenu », on a dit monothéisme. « Bemaalache chayav », « Mazé maalache chayav », c'est ce qu'on appelle la morale judéo-chrétienne. C'est-à-dire évidemment qu'on a influé aussi au niveau de comment on se comporte au quotidien, puisqu'on a mis en place... on n'a pas voulu, mais c'est comme ça. On a mis en place ce qui va devenir la morale judéo-chrétienne. Megamat panav betoafat ruach ruchot aklalit.
Ça veut dire la morale judéo-chrétienne. Je comprends pas.
C'est-à-dire que tous les idéaux.
Rien à voir avec moi.
Je vais t'expliquer. Tous les idéaux de la chrétienté au niveau de la relation ben Adam la Chavero, c'est du copier-coller du peuple juif que eux ne sont pas capables de réaliser.
C'est ça. Évidemment,
quand il dit judéo-chrétien, c'est juif. Ben vadaï, c'est évident. Les chatrayem, tout ça, c'est toute la vitalité qui a été mise en place par le peuple juif. Donc tout ceci est relié maintenant à la Havana Sibatite. Les deux sont reliés. Beota avata an nafshit. של הדבקות בהשם אלוהיו, אלוהי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים מבית עבדים, ומביאהו אל ארץ הברית והשבועה, המורהו בדרכי חיים ונתיבות עולמים, אחוזים הם זה בזה הכישורים. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu nous a sortis d'Égypte à l'époque, il nous sort d'exil aujourd'hui. Et nous sommes reliés à lui par le même lien qui a relié Moshe et les Bnei Israël à Dieu à l'époque.
Des épaules de géants.
Ce qui fait qu'on est plus grand.
Ah, vu comme ça.
Bah, si tu es des nains sur des épaules de géants, donc tu es plus grand.
Sibatiquement, tu as raison, mais d'un point de vue plus profond.
Au niveau individuel, on n'est pas Rashi. D'accord ? On a beau être bon, on n'est pas Rashi. Aval, on est plus grand que Rashi. Parce que nous, on connaît aussi le Rambam. Et Rashi, il ne connaissait pas le Rambam. Parce que le Rambam, il vient après. On a aussi l'enseignement du Rambam. Ah bah oui, autodama. C'est pour ça que j'ai dit, au niveau individuel, toi et moi, on a des millions d'années-lumière de Rashi, de Rava, de Rabbi Akiva. Il n'y a pas de débat. Mais on est des nains sur des épaules de géants. Donc au final, on est plus grand, puisqu'on profite de toutes les épaules des géants qui nous ont précédés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu comprends des choses qu'à l'époque, il y avait une personne et demie qui comprenait.
Alors, d'où elle vient cette rhétorique ? On entend tout le temps ça. On est des nains, on veut nous réduire.
Non ! Il y a, alors, le Rav Kook, d'abord, il va nous expliquer, pas ici, mais dans un autre livre, que la dimension de Yeridat Adorot, elle est terminée. Il n'y a plus d'Yeridat Adorot, maintenant, il y a Aliat Adorot. On est en train de grandir nos enfants, ils seront plus grands que nous. Il n'y a pas de débat. Nous, on est plus grands que nos parents.
Est-ce que c'est peut-être lié aussi à la...
À la Géoula. Plus de Torah que ton grand-père à ton âge dans ta situation. Ne dis pas, non, mon grand-père c'était le Gdolador en Alsace. Ok, ça va être un cas en particulier, mais de manière générale, dans la majorité du peuple juif. Je te parle deux secondes, on va rentrer dans le monde de la chassidoute. Ok, je vois Rabbi Yonatan qui est là, qui prépare son shiur de chassidoute. Donc prenons deux secondes le monde de la chassidoute. À l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, à l'époque du Noam Elimelech, à l'époque des grands, grands, grands personnages de la Chassidoute. À Israël, il ne connaît rien.
C'est en volumétrie, en fait.
Il a fait. Donc
alors, la Torah,
elle est accessible à tout le monde. Il a fait. Ce qui fait que tu es beaucoup plus grand. Ce qui fait que tu es beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que j'avais, je vous en avais déjà parlé sûrement, je me rappelle que quand Reb Avrum Shapira il est décédé, et le Rav Lechaliaou était décédé, j'ai un sentiment de truc. J'étais voir le Rav Cherki, je lui ai dit, mais tous les grands, ils partent. Et il n'y a pas de nouveaux grands. Il m'a dit, comme Kohl, c'est pas sympa pour moi. Et après, il me dit, mais c'est normal. Dis-toi que la Torah, ça doit être une quantité X de Torah qu'il doit avoir constamment dans le monde. Allez, on va dire que la Torah, c'est 100. Maintenant, à l'époque de Rabbeinu Tam, 99% des juifs, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils sont Shumnava. Donc, Rabbeinu Tam, il récupère 90% de la Torah. Et le reste, c'est disséminé chez les juifs. Aujourd'hui, Am Israël, il a 50% de la Torah. Donc les rabbins, ils ont plus besoin d'être aussi géants. C'est de ça qu'on parle. Ok ? Bekitso, שפעת החיים הכלליים, זאת אבונדנס ג'נרל, אחוזים בריתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה, מתחלשת. Quand on se sépare de cette מקור, eh bien, tous ces éléments fondamentaux qui sont מקדש, qui sont נבואה, machin, זה מתחלש. Parce qu'on n'arrive plus à connecter. Ok? Retukot agoy ve'aretz. On est mitrachek. Ok? Berituk. Ruach zar ba umefaem ve'utzemach lo yase kemach. Lo yikalet ve'lo yatzmiach. Quand on est influencé plus par notre relation originelle avec la moussar, eh ben, zeruach zar shemagia. Et tu commences à réfléchir avec des idéaux qui ne sont pas les nôtres.
Suivant cette logique, chaque génération nouvelle, elle s'enrichit de ce qui est passé.
Oui, mais des fois, tu t'enrichis de choses qui sont négatives, qui ne sont pas toi, qui ne sont pas aimées. Alors, dès que c'est positif, c'est positif. Mais qu'est-ce que c'est négatif ? « Veinenu roim et amare abba veotse shemot, ad asher yashuv ha'am el el chayav » אל מקור ישעו, ישיב אליו את רוחו, יקשר באומץ לבב וברוח בינה אל שם השם אלוהי ישראל, ומנזלי פלגין של הרעיון הכללי, העמוק והחסון, המתואם לרוח עולמים ולחטיביות המיוחדה של ישראל, ישועה חוזרת ומוארה. C'est-à-dire que le but, c'est de revenir à cette compréhension de l'origine. כל זאת היא בינה גלויה. T'as fait la différence entre ce qui était bon et pas bon, t'as gardé le bon. Akara ma'asit amechaya umeshiva ruach, aval miyad anu baim leitromem bechadira yoter penimit, shemimal lekol haoreg achuki haze ereg musari natun. On revient aujourd'hui à la notion musarit, à l'origine des choses. במוסריות רעננה המחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ, כל הזיו של החיים האלה המתגלים בהופעותיהם, בעזיזות כל כך גדולה, בדיקנות כל כך אדירה. On revient à la moussariut. On revient à l'origine des choses. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אומרה שכח ראוי להיות, שכך ראוי להיות, סליחה, כך צריך להיות, לא רק כך הוא וכך נהיה. Ça, on ne dit pas c'est comme ça parce que. On dit c'est, il faut que ce soit comme ça. C'est ça l'origine. Voilà la raison profonde de pourquoi c'est comme ça. Be'akara shekach tzarich liot ube'itgaluta shel abina musarit anu chozrim achar kach le'akir et shalshelet achukit amusarit bechol prateya bechol omka ve'gov'a rochava ve'ikefa penimiyuta ve'chitzoniyuta ha'istagevut slicha akfula chaya ve'ra'anana mitoreret az bekirbo penima עינות של עצה ותבונה, צביונים, חיים ותחבולות ישרות, הולכים ומתגלים בקרב כל כליות ולב, רוח האומה מתעורר לתחייה, ומחבא החיים אור קדושה וטהרה זורח אורו של משיח. C'est-à-dire que nous revenons, זהו. Et nous terminons donc ici par ce retour de la Moussariyout, c'est-à-dire de rechercher le pourquoi et non pas seulement le comment. Et c'est ça qui amène à la lumière du Mashiach.